Mardi le 9 mai 2023. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On jase. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. Guy Boucher et Marc Denis seront avec nous aujourd'hui. Salutations à vous tous les jaseux sur Facebook Live, YouTube, RDS.ca ou via la télé également sur les ondes RDS et RDS Info. Bon midi, Martin.
Salut Yannick. Écoute, ça se poursuit ce soir. Hier, un seul match, alors que je m'attendais à ce que Edmonton piétine Vegas. Surprise, surprise.
Ça n'a pas été le cas.
Alors, non, il se passe des revirements dans les séries. C'est vraiment incroyable. Salutations pour commencer. Moi, hier, j'avais une pratique de baseball. J'ai décidé. Je me suis pas mal fait embarquer dans une histoire de midget 2A cette année comme entraîneur des lanceurs. Puis une fois que j'ai accepté, ben, je suis bien content d'être là. On va avoir du fun cette année. Fait que j'en profite pour saluer toutes les équipes de baseball, de soccer qui vont commencer, si ce n'est pas déjà fait, bientôt. Moi, ma saison commence samedi prochain. Donc, c'est pas mal la même situation pour tout le monde. Donc, joueurs, entraîneurs, bénévoles, gérants, gérantes, les gens qui entretiennent le terrain, salutations, passez un bel été. Puis surtout, dans les estrades, on est gentils.
Ouais, c'est comme ça dans tous les sports. Tu fais bien de le mentionner. Je vois que tu portes fièrement ton coton ouaté de la LHJMQ, une équipe, c'est les Wildcats de Moncton. Et j'en profite, Martin, pour rappeler aux gens que RDS va présenter tous les matchs de la finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à compter de ce vendredi, match 1 et 2, vendredi et samedi à 19h du côté de Québec. Par la suite, à Halifax et à Québec, et ainsi de suite. Donc, ce sera une série relevée entre les Mooseheads d'Halifax et les Remparts de Québec. Et tous les matchs sont présentés sur les ondes de RDS à ne pas manquer. Ça va être bien intéressant. OK, allons faire un tour,
bravo, si tu le veux bien.
Ben oui, tout à fait. On a pris la décision de présenter tous les matchs. C'est le fun. On va pouvoir suivre ça dès vendredi. Avant d'aller retrouver notre ami Guy, ben, on a quelques échos de vestiaire du côté des Devils, du côté également des Panthers. On écoute ça et au retour, Guy Boucher s'installe.
We've got a lot of inexperienced playoff players. There's fake intimidation in the game. There's real intimidation. There's verbal intimidation. There's any edge you can try to get in a playoff game, some of our guys have to live through. And some of our guys have to start to learn to laugh at it. I think when you've got a guy like Brandon who's been through that war, has battled through those situations, knows that there's nothing to fear inside a game. I thought games 1 and 2, we didn't match their intensity. We didn't match their will, and I thought in game 3 we exceeded what I thought we'd get to.
I've always been myself, never changed anything with how I've approached each day or each game or anything like that. So I don't really know what to say. Like, I've just always been myself, and this group has allowed me to do that. It's fit perfectly, like, with the guys in here and the personalities and just the competitive nature of this room, and just like the off-ice characters too. It's a perfect fit, and everybody's been unbelievable in here, and ever since I came here before the season, like, it's just fit perfectly. Well, we don't really feel a ton of high pressure, I don't think. Like, there's no sense in feeling pressure for us. Like, I don't know, eighth seed limped in, like, been fighting our way through the whole year. Like, it's just about having fun. So, you know, why play if you can't enjoy it, right? So I think that there's really not a ton of pressure. There's no pressure on us. It's just, like, about there making sure that we're enjoying it.
Salut mon Guy. En tout cas, la carte de négligé, d'après moi, Mathieu Tkachuk, même à la finale de la Coupe Stanley, il va jouer parce qu'il ne manque pas une occasion de nous jouer.
De le rappeler, oui.
C'est bien correct. Honnêtement, là, on a une petite idée de quoi qu'ils croient, ces gars-là, puis qu'est-ce qu'ils croient pas. Il y a des choses qu'ils disent pour les médias. Et Lindy Ruff, jeune équipe non expérimentée qui fait face à toutes sortes d'intimidations. Puis ils apprennent à gérer ça. C'est intéressant, ça aussi, ce point de vue-là, Guy. Avant qu'on parle des séries, as-tu envie de parler de Connor Bedard, qui, malheureusement, pour les fans du Canadien, s'en va du côté... Qu'est-ce que tu as fait là?
Ma fille, elle m'appelle.
Ah! Je pensais que tu pesais sur une sirène pour dire Connor Bedard.
Mes enfants, ils m'écoutent très souvent.
Oui, non. Mais toi, t'es aux États-Unis, en plus, c'est pas pareil. Elle peut nous écouter via Facebook. Elle peut nous écouter via rds.ca. Mais parle-nous de Connor Bedard qui s'en va à Chicago. On parlait ensemble ce matin, puis tu disais, pour le kid, t'es pas la meilleure place à débarquer.
Ben, écoute, comme organisation, oui. Je veux dire, c'est Blackhawks, une des six équipes originales début de la Ligue. C'est une équipe qui a de l'argent, qui va dépenser au cap quand ça va être le temps. Il y a des gros noms qui ont passé là, ils vont aller coupe cette année. Et surtout, ils vont, tout de suite, quand ils vont être repêchés, tu vas avoir des gars comme Jonathan Taves qui vont rôder autour de l'équipe. Des gars qui ont un gros statut, des bonnes personnes qui vont être capables de s'occuper de ces gens-là. Fait que sur ce côté-là, c'est extraordinaire. Mais dans les circonstances d'où ils sont en ce moment, il m'a dit qu'il ne reste pas grand-chose là-bas. Là. Fait que c'est sûr que pour l'entourer, c'est pas nécessairement le meilleur endroit pour lui là, à court terme. Mais c'est sûr qu'à long terme, comme organisation, je suis convaincu qu'ils vont bien faire. Mais à court terme, là, s'il y avait eu un choix à faire, je ne suis pas sûr qu'il aurait choisi celle-là pour l'équipe. Mais comme organisation, absolument, puis comme la ville, bien, tout le monde aime ça, Chicago. Il y a tout à Chicago là, que tu peux avoir. Puis c'est quand même un endroit où il y a une superbe ambiance d'un gradin. C'est une des places où tu, pendant l'hymne national, puis début de match, sauf que le poil te lève sur les bras, là, tellement il y a de l'ambiance. Fait que, tu sais, il y a du bon, il y a du moins bon parce que ça va être probablement un petit peu plus difficile pendant les premières années que ça pourrait l'être s'il était déjà entouré. Comme par exemple, je ne sais pas moi, si à la Columbus. À Columbus, tu aurais au moins, tu sais, Delaney, Gaudreau. Fait que, tu sais, en termes de production, probablement que ça aurait été mieux que ce qu'ils vont vivre les prochaines années.
Ben, ça va être intéressant d'entendre. On l'a entendu un petit peu hier, ses commentaires, mais on m'informe à l'instant que Connor Bedard sera l'invité de l'antichambre ce soir par Zoom. Donc, sur nos ondes, à compter de 22h ce soir, Connor Bedard sera à l'antichambre. Par contre, comme partisan, Guy, je comprends ton point, puis c'est je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais comme partisan, moi, je suis content que ce soit à Chicago plus qu'en Arizona ou à Anaheim parce qu'on va le voir jouer un peu plus souvent. Tu sais, Chicago, là, c'est juste la ligne entre l'Ouest et l'Est. Là. Il y a juste une heure de décalage. On va le voir jouer plus souvent. Donc, au moins. Puis, il ne se retrouvera pas dans les pattes du Canadien non plus. Fait que ça, tu sais, à Columbus, on l'aurait vu un petit peu plus souvent. Mais au moins, on n'est pas dans la même association. Je trouve que c'est un baume quand même pour lui. Puis pour la Ligue nationale, ben, c'est une excellente nouvelle là, dans un gros marché comme Chicago. Là. C'est assez vendeur.
C'est ça que j'allais dire. Tu as raison, Yannick, je suis tellement d'accord avec toi. Ce que j'allais dire, c'est que pour la Ligue nationale, être dans ce gros marché-là, c'est super pour le côté financier, brand, puis tout ce qui vient avec. Puis oui, parce que tu sais, Chicago, tu vois, t'as déjà beaucoup de matchs habituellement de Chicago qui sont diffusés sur les médias nationaux et ainsi de suite. Puis là, tu vas en avoir encore plus. Là, ça va être comme quoi au début.
Oui, bien, bon coup de l'antichambre ce soir. On va regarder ça, c'est certain. Connor Bedard qui sera en entrevue. Le Canadien qui va repêcher cinquième, c'est quand même un top 5 comme choix. Et certainement que le Canadien sera pris avec la décision de Mishkov ou pas Mishkov. Parce que si tout se passe comme on pense, Bedard, Fantilli, Will Smith et le Suédois Carlson, cinquième, c'est Mishkov. Alors, est-ce qu'on va là ou on change, en guillemets, de braquette? Parce qu'il paraît qu'après ça, on change de braquette de niveau de joueur. Donc, j'ai hâte de voir la décision du Canadien dans ce dossier. Ça serait intéressant de suivre ça. Guy, c'est plate pour les fans du Canadien, mais on le dit souvent, c'est pas un joueur qui gagne. On a vu hein, les séries éliminatoires, des gars qui marquaient 4 buts, leur équipe ne gagnait pas. C'était les meilleures équipes. Donc, si on essaie de se consoler comme fan du Canadien, c'est de dire, on n'a peut-être pas eu le meilleur joueur, mais on va essayer de continuer de construire une bonne équipe.
Oui, puis honnêtement, regarde, au cinquième rang, là, t'es supposé repêcher un bon joueur. Là.
Ben oui.
Tu sais, au début, la vérité, là, un très bon joueur, au début, bien entouré, il va peut-être mieux performer qu'un meilleur joueur qui est moins bien entouré là, dans les premières années, là. C'est ça. tu le sais jamais, là. Tu sais, en plus, on en a parlé tellement souvent, là, combien de joueurs? Tu sais, Kucherov, c'est un choix de deuxième ronde. Tu sais, c'est dominant.
Il a une pointe troisième.
Pointe trois, c'est ça, troisième ronde. Palat, septième ronde. Alfredson, c'est septième ronde, je me trompe pas, tu sais. C'est pour ça que les bons joueurs, il y en a partout, puis des flops, il y en a aussi, là. Puis il y en a beaucoup dans 5-10 premiers, tu sais. On regarde tout le temps ceux qui ont réussi, puis ça devient des joueurs exceptionnels, mais si on regarde le nombre que ça n'a pas fonctionné, tu vois qu'il y en a bien plus que l'inverse. Fait que moi, ouais, de toute façon, regarde, je suis jamais vraiment excité pour ces affaires-là. Hier, j'avais même oublié, hier soir, que c'était ça, puis j'ai vu ça sur mon téléphone avant de me coucher, là, fait que j'ai pas...
Après moi, t'étais le seul. Il devait pas en avoir bien qu'il l'a oublié.
Ça se peut parce que, je croyais pas aux chances, là. Je sais que c'était 8 points quelque pour le Canadien ou n'importe quelle autre équipe, là, fait que... Je sais pas. Puis en plus, comme tu m'avais dit, peut-être ça m'a dégonflé en plus que tu m'as dit que c'est fait d'avance, puis après ça, c'est tout du fake, tu sais. Je te l'ai.
Ouais. Ben, en fait, hier, puis c'est ça a peut-être été mal saisi un peu quand j'ai expliqué, là, c'est que c'est pas les directeurs généraux qui sont dans la salle. Il y a un représentant de chaque équipe, mais c'est fait en après-midi. Mais après ça, j'ai fait des vérifications, puis je sais qu'il y a des gens, entre autres, qui m'ont interpellé là, sur Twitter et tout ça. C'est que de la façon que ça se déroule, puis évidemment, quand j'ai lancé ça hier, là, c'était vite comme ça. Là, je savais que c'était fait en fin d'après-midi. C'est un représentant par équipe pour s'assurer que tout ça est fait en bonne et due forme. Et ces gens-là sont gardés, mais ça, je l'avais dit, ces gens-là sont gardés à huis clos. Et par la suite, en soirée, lorsqu'on dévoile, les directeurs généraux ne sont pas au courant. Puis de toute façon, ils sont chacun dans leur ville, là. Mais ils ne peuvent pas faire ça en direct. D'ailleurs, on n'a même pas vu hier le tirage de la petite boule. Des fois, il monte, des fois, il ne monte pas. Là. Hier, on ne l'a pas vu. C'était vraiment simplement les cartons. Mais c'est de la façon, c'est de la façon que ça se déroule. Oui, c'est ça. Je pense que la dernière fois qu'on a vu la petite boule, c'était les Rangers. Puis je pense qu'ils diffusent après dans les médias sociaux et tout ça, là. Mais l'année des Rangers, Alexis Lafrenière, là, on avait vu la petite boule. Mais là, hier, c'était vraiment les cartons. Mais ils n'ont pas le choix de faire ça comme ça parce que tu peux pas y aller en direct. Jamais il y a un problème technique ou n'importe quoi. Tu sais, c'est comme ça. Donc, c'est un représentant par équipe avec des gens de la Ligue nationale qui sont enfermés dans une salle. C'est dans les studios, je pense, de NHL Network aux États-Unis. C'est à ce moment-là, puis là, ces gens-là demeurent ensemble par la suite. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui coule. Puis on dévoile en soirée. T'sais, habituellement, même si c'est à 19h, là, c'était à 20h hier parce que le match qui suit est à 20h30. Mais les directeurs gérants ne sont pas au courant. Donc, je voulais juste faire le petit correctif là-dessus. Et élément d'information qui va vous rappeler des souvenirs, c'est Mathieu sur les médias sociaux qui dit « La dernière fois que le Canadien a choisi au cinquième rang, rappelez-vous, c'est Carey Price. » Ça, tout le monde se rappelle de ça. Mais rappelez-vous, les noms qui sont sortis avant, c'était un peu similaire à cette année. C'était Crosby qui était premier, un peu Bédard, c'était réglé d'avance, on le savait. Deuxième choix, Bobby Ryan. Troisième choix, Jack Johnson. Et quatrième choix, devant Carey Price, Benoît Pouliot. Et Carey Price est sorti.
Heureusement. Ben, heureusement, tu vois, parce que la rumeur veut que si Pouliot n'était pas pris, Canadien prenait.
Pouliot. Ouais, exact. T'sais, c'est ça. Fait que le côté scientifique du repêchage, là, à chaque année, il y a toujours. C'est pas une recette magique. Là. OK. On a parlé pas mal. Oh, tu l'as ajouté, Guy, avant que je te lance sur la série Oilers Golden Knights?
De l'intérieur, je l'ai tellement vu. Tu te fais une liste, puis. Après ça, quand tu repêches ton gars, tous les équipes vont dire « Ah, c'est le gars qu'on avait sur notre liste. » C'est complètement faux.
C'est normal.
C'est pas de même que ça fonctionne. C'est que toi, tu pensais que tu allais avoir tel joueur. Finalement, il y a un gars qui était plus bas sur ta liste qui est passé en avant. Fait que là, ça en fait décaler un autre, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, ben tu t'en vas pas en première ronde avec un nom. La manière que ça fonctionne, c'est que tu as toute ta liste de tes priorités. Puis après ça, tu décales tes priorités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu pensais... J'ai même vu à un moment donné trois gars qui étaient supposés être plus loin selon la centrale, puis que les trois gars étaient partis avant. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'es rendu à ta liste de deuxième ronde. Là, t'avais... Parce que, tu sais, c'est pas... La liste des équipes n'est pas... Puis ça, les gens peuvent pas le savoir, je comprends ça. N'est pas la liste des équipes. La liste là, qui sort, là, ça, là, c'est la liste de la Ligue nationale qui est répertoriée selon ce qu'ils pensent. Mais c'est pas ça pas en toute ta liste là, comme équipe. Là. Des fois, là, tu as toute
parce que les besoins diffèrent.
Ben oui, puis toi, tu as fait tes devoirs, puis selon ce que toi, comme information, des fois, tu peux avoir toute la moitié de la première ronde que toi, tu n'as même pas dans ta liste. Tu sais, c'est ça, là. C'est vraiment une question de ce que toi, tu as besoin, puis c'est quoi qui est écrit, là?
Les dépisteurs, c'est ça qu'ils font. Ils mettent un post-it dans leur poche parce que des fois, ça change, puis là, tu deviens influencé par ce qui se passe. Comme dans le film Draft Day avec Kevin Costner. Vante Mac, no matter what. C'est ça qu'il faut qu'ils fassent, les gars, pour pas changer d'idée en chemin. Un classique, ouais, Guy, que j'irai chez vous écouter avec toi avec un bon popcorn.
T'as jamais vu ça, Guy? C'est Draft Day. Écoute, c'est un grand classique. Martin en parle souvent, Guy aimait ça. Je pense qu'il l'écoutait 50 fois. Mais c'est très bon. C'est très bon, ce film-là.
Si jamais il joue à TV en français, en anglais, en espagnol, on va l'écouter.
J'ai jamais été bien. Pour être franc, le film il est sûrement bon, là, mais les repêchages même là, dans n'importe quelle ligue, j'ai jamais été bien friand de ça, pour être franc. Là.
Ouais, mais ça, c'est un film, là, c'est romancé,
là,
on s'entend.
Ça, là, t'as du fun à écouter ça, mais en vrai, là, je vais te dire une affaire comme coach, là, t'es assis au bout de la table, tu manges des sandwichs, puis autre, ça finisse en jouant le vert.
Ouais, ça c'est sûr, parce que de toute façon, t'y connais pas ces gars-là. D'ailleurs, Mathieu, ouais, vous avez fait un petit montage l'an dernier. Là, Martin, tu peux aller le chercher là, sur notre groupe. Là, Mathieu vient d'envoyer une superbe photo de toi avec ton film préféré au fil du temps. Là. Je sais pas si es-tu capable d'aller la chercher?
Oui, on l'avait déjà aux gens. On l'avait déjà montré.
Ah. Au lieu de Kevin Costner, Martin Lemay dans le rôle du principal du film. C'est vraiment bon. C'est un bon montage, ça.
Ouais, je me souviens bien, je vais pas arriver de criser à Mathieu, mais je pense que c'était un auditeur qui avait fait ça. C'était
génial.
Un fan de Donjon, c'était vraiment bon. Puis tu sais, en bas, c'est marqué Draft Day avec Martin Lemay et Yannick Lévesque. Je pense que ça avait été fait pour notre émission spéciale sur repêchage.
Oui, l'année passée, exactement. Hey Guy, avant qu'on poursuive, et Martin, on me dit qu'on a les commentaires d'Anthony Duclair en français, puis lui connaît des bonnes séries, notamment un bon match lors de sa dernière rencontre. On vient toujours de recevoir ça. Écoutons les propos d'Anthony Duclair, puis on va parler par la suite un petit peu des Panthers et des Leafs, si ça vous tente.
Non, pour nous autres, je dirais, on n'a pas d'expectation. On joue la game, on joue pas la série. T'sais, on ne joue pas comme si ça va être 3-0, on joue comme si c'est 0-0. Comme j'ai dit, on garde la même mentalité, c'est ça qui nous a donné du succès, alors il ne faut pas changer. Il est incroyable, honnêtement, même depuis Columbus, j'étais très surpris comment il se prépare. Honnêtement, sa préparation est incroyable, tout un professionnel. Même s'il y a un mauvais match, bon match, il reste calme, il reste sur terre. Et puis, c'est ça que j'aime de Bob. Il ne laisse pas trop lui affecter. Et puis, on voit maintenant, spécialement depuis qu'il est retourné dans les séries, qu'il est juste vraiment incroyable. Il est un bon gardien de but, et un des meilleurs gardiens de but dans la Ligue. Puis, il commence à le prouver aussi nuit après nuit.
Tu sais, quand on dit que c'est pas pareil à Montréal qu'ailleurs, t'as vu qu'à côté du star, le locker, et maudit, je cherche mes mots français, l'endroit où se change
casier.
Anthony Duclair,
du casier.
Son casier, à côté, c'est en broche parce que c'est pour les extras. Si on n'a pas un vestiaire douillet comme celui du Canadien où il y a de la place pour tous les extras. Là-bas, c'est en broche. On est allé chez... choisissez le magasin, là... Je ne veux pas faire de publicité pour personne. Puis, grande surface. Puis, as-tu de la broche? On va se faire un casier. Fait que, chez les Canadiens, ils sont bien. Bon, Yann, toi, tu voulais parler de Leafs Panthers. On n'avait pas vraiment ça sur la plate d'un sujet.
C'est correct. Ça, on voulait revenir sur... avec Duclair.
On voulait revenir rapidement. Mais... Ouais, mais c'est parfait.
C'est commentaire. C'est exactement comme ça qu'on se prépare. C'est pour ça que je dis toujours qu'à l'intérieur, c'est l'inverse de ce qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur, on va s'exciter de gagner une série, on va parler de gagner une série, on va parler du prochain match, puis ainsi de suite. Mais à l'intérieur, c'est un entraînement mental de tous les jours qui te fait faire l'inverse. Exactement comme on vient d'écouter Anthony. Lui, on n'essaie pas de gagner la série là. On n'a pas. C'est pas ça. Là. On a un match. Comme on s'est préparé au premier match, comme on se prépare tous les matchs, ou est-ce que c'est vraiment, vraiment. Très, très spécifique sur ce qu'ils ont à faire, puis tu ne vas pas plus loin, tu ne vas pas en arrière, tu ne vas pas en avant. Puis ça, ben ça fait plusieurs joueurs des Panthers, autant en français qu'en anglais, maintenant qu'on les entend. Que, tu sais, puis tantôt, tu vois Kachuk, c'est ça qu'il veut dire. C'est, en ce moment, eux autres, c'est pas, ils regardent jamais l'ampleur des choses. Puis c'est sûr qu'ils sont dans une position aussi pour ça. C'est vrai que quand tu rentres, puis qu'il a été rentré à la dernière seconde, puis que t'étais supposé être mort en 4 matchs contre Boston, puis qu'après ça, t'es supposé être mort en 2 secondes contre Toronto, c'est sûr que c'est une pression qui est quand même une approche qui est vraiment différente, que les gars de Toronto qui savent que s'ils gagnent pas, ils perdent leur job, puis c'est une autre affaire, là, c'est clair.
Bon, Guy, on a parlé du match Vegas-Edmonton ce matin, toi puis moi ensemble. Puis, ouais, encore une fois, une équipe sur la route. Puis moi, à la suite de la victoire des Oilers à Vegas, alors que le Vegas a été indiscipliné. En plus, qu'on confirme très tôt dans la journée, Laurent Brossois, me suis dit, my God, ils n'ont pas compris. Brossois se blesse, Ademil arrive, il n'a pas touché à la glace depuis je ne sais pas combien de temps. Puis Vegas l'emporte assez facilement. Et là, on s'est mis à jaser tantôt, puis je t'ai dit, Guy, c'est-tu rendu que tout le monde a peur de faire une retraite fermée, de peur de perdre tes joueurs, alors qu'on voit bien que les gars sur la route, en tout cas cette année, performent bien mieux sur la route qu'à la maison? Et là, t'es parti à rire, t'as fait « Ouais. Ouais. » Pourquoi tu faisais « Ouais. Ouais. »
Ben, c'est parce que la retraite fermée, les gars vont en vouloir. C'est pas les gars, le problème, c'est les familles.
Ouais, c'est les femmes à maison.
Oui, mais c'est ça. Honnêtement, c'est pas une faute de personne. C'est une réalité que, tu sais, c'est correct pour une couple de jours, mais là, c'était parti 3 mois de temps dans les playoffs. À un moment donné, tu sais, la femme, elle a 3 enfants, là, elle a plein son casque, tu sais, fait que puis ça se comprend. Puis éventuellement, c'est sûr que le gars veut voir ses enfants aussi, là, mais c'est clair que t'as bien moins de distractions sur la rue que t'en as à la maison. Ça, ça a toujours été. Là. Puis plus t'es dans un gros marché, plus c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est clair. Puis des équipes qui ont beaucoup de pression, bien, il y en a encore plus à la maison. Fait que c'est Edmonton, Toronto, toutes ces équipes-là, tu sais. Fait que, oui, c'est une possibilité. Les équipes qui peuvent le faire, définitivement. Moi, je pense pas que c'est quelque chose que tu peux nécessairement faire dès le départ. Mais à un moment donné, plus tu avances dans les séries, tu vois qu'à chaque fois que tu passes à la maison, bien, là, à un moment donné, tu vas essayer de faire quelque chose de différent. Moi, je serais pas du tout pour ça. N'importe quoi que tu peux faire qui peut te donner un avantage, il faut que tu le fasses. Okay, mais c'est clair que cette année, c'est impressionnant le nombre d'équipes à la maison qui perdent, mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est pas seulement juste de perdre. C'est le nombre de fois que des équipes à la maison sont flattes. Comme hier avec Edmonton, j'étais abasourdi, mais regarde, c'est pas la dernière fois. Depuis le début des séries, on envoie à tonnes d'équipes, non seulement qui perdent à la maison, mais qui sont flats. Et ça, c'est pas habituel, là. Ça, je me parle beaucoup là-dessus en ce moment. On a une pause. Bon, fait que, ouais, c'est que ce qui est fascinant pour moi, c'est de voir qu'on peut passer, comme tu viens de le dire, d'Edmonton, qui sont à Vegas, qui veut dire qu'ils étaient complètement dominants, t'es tout seul sur la glace. Fait que tu t'attends ça au prochain match encore plus à la maison, mais c'est complètement l'inverse qui arrive. Et ça revient à ce qu'on dit toujours. En tout cas, moi, il n'y en a pas de momentum d'un match à l'autre. Il n'y en a pas. C'est pas vrai. Puis il n'y en a même pas d'une période à l'autre. T'en as à l'intérieur d'une période, absolument. Ça se promène d'un bord à l'autre. Des fois, tu as un momentum toute la période, mais ça, c'est rare. Habituellement, tu as des portions de période que ça se relance pour... Mais c'est toujours à recommencer. Et c'est ça, la beauté. La beauté de tout ça, c'est qu'une journée, c'est ça. Puis quand cette journée-là est finie, tu passes complètement à d'autres choses. Et c'est justement ça que ça prend pour être un grand athlète, pas juste au hockey, dans n'importe quel sport, d'être capable de passer à un autre état, même si tu as énormément de succès, ou le contraire, que tu t'es fait défoncer complètement ou ça a été une journée atroce. C'est cette capacité. Tu sais, on regarde Québec, là, Patrick Roy, c'était ça. Là. C'est pas parce que Patrick Roy était parfait tout le temps et il arrêtait tout. Là, c'est pas vrai. Il y a eu des mauvais matchs, il y a eu des mauvais buts. Puis après ça, tu te dis, waouh, comment il va faire pour se remettre de ça? Mais c'est un des plus grands athlètes en termes de ça, Patrick, là, d'être capable de passer d'un état à l'autre, c'est sans rester pris, autant du côté trop positif que du côté négatif. Puis ça, C'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est même donné à très peu de gens. Très peu de gens. C'est pour ça que... Oui.
Non, bien, je te laissais terminer ton point, mais c'est parce que j'y vais arriver une question sur Facebook qui n'a pas rapport avec le hockey, mais je la trouve tellement intéressante. Puis honnêtement, ben, à part quelqu'un que... Oui, exact. À part quelqu'un qui a dirigé ou qui a travaillé dans la Ligue nationale, il n'y a personne qui peut répondre à ça. Puis je voulais te la poser avant qu'on se quitte tantôt, c'est certain. Michel, là, Madame Michel Vaudry, te demande, Guy, est-ce que ça existe une aide aux familles pour alléger la tâche des femmes durant les séries, entre autres, afin qu'elles ne soient pas complètement débordées sans leur conjoint? Est-ce que les équipes offrent ça aux familles et aux épouses? Bonne, très bonne question.
C'est une très, 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 très bonne question. Bon, premièrement, les équipes dans lesquelles moi j'ai été, on envoyait des lettres, c'est pas de l'aide, mais on avait quand même de l'encouragement avant que les séries commencent, que les épouses et les familles font partie du succès. Ils font toujours partie du succès, mais en série, on comprend très bien que c'est un plus grand sacrifice encore parce que les hommes sont pas là. T'es là, mais t'es pas là, regarde, oublie ça, là, ça te prend toute ton énergie. Donc, les familles ont beaucoup, beaucoup de sacrifices à faire, puis les épouses sont obligées justement d'avoir de l'aide la plupart du temps, surtout quand tu as plusieurs enfants. Et tu sais, un gars comme Julien Brisebois, par exemple, c'est un champion de ça, à penser à ces choses-là, même dans la ligne américaine, envoyer une lettre avec des fleurs, avec t'sais, de dire que les femmes faisaient partie du succès, qu'on savait que c'était un sacrifice, qu'on était là, puis que oui, justement, Julien disait que si vous avez besoin de quelque chose, que s'il y a des situations qui deviennent difficiles, tout ça, de ne pas hésiter. Puis, mais c'est Julien Brisebois tout craché. C'est pas partout comme ça, mais des gens comme Julien, c'est pas pour rien qu'ils gagnent, c'est pas pour rien qu'ils sont au devant. C'est parce qu'ils pensent à ces choses-là. Puis moi j'étais ce genre de personne-là aussi. Fait que c'est sûr que nous autres, les deux ensemble, ça faisait partie de notre philosophie d'inclure. Puis moi, je sais très bien que quand ils ont gagné la Coupe, toutes les épouses des joueurs, du staff et tout ça, ils ont eu eux aussi une bague de la coupe. Là. Fait que. Oui. M. Vinick, là, à Tampa, est exceptionnel. Là. C'est tout le monde qui a participé de près ou de loin. Puis il y en a qui sont pas nécessairement une bague, il y en a qui sont une chaîne avec la bague à l'intérieur. Fait que, oui, non. Les bonnes organisations vont offrir de l'aide, vont offrir du support, vont inclure les épouses puis les gens de la famille là-dedans. Et puis, c'est pas juste dans la série, par contre, parce que tu peux avoir, tu sais, quelqu'un de malade, l'équipe va payer un billet d'avion à des parents d'ici à... tu sais, moi, je sais qu'il y avait un staff, là, M. Vinick qui avait tout payé pour notre assistant coach, qui avait il avait une tumeur au cerveau. Il l'a envoyé voir les meilleurs au monde, il a tout payé. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment des endroits, mais oui, j'ai un ancien coach national qui travaille pour une organisation, je ne dirais pas qui, mais il a eu un problème de cœur, puis le propriétaire, il l'a envoyé en avion, est allé chercher un avion privé en Floride pour le ramener à son meilleur docteur. Fait que tu sais, t'en as plusieurs histoires comme ça à l'intérieur, mais oui, il y a des organisations qui sont très à l'affût de ça.
Puis, tu sais, je sais que les gens vont dire, ouais, mais tu sais, ils ont des sous pour se payer de l'aide, exemple, femme de ménage, tout ça. Ça, c'est certain, c'est pas de ça qu'on parle. C'est qu'à un moment donné, t'as besoin d'une paire de bras de plus. Tu sais, t'as un enfant malade, pas capable d'aller chercher les kids à l'école, puis t'as pas ta famille immédiate prête parce que t'es pas dans ton pays pour un Européen, un Américain qui est au Canada. C'est là que tu peux, tu sais, avoir de l'aide, puis que ça soit un support, tu sais, des affaires qui sont pas monnayables, tu sais, un support, etc. Là, donc, c'est surtout dans ces. En tout cas, c'est une belle, c'est une belle touche de la part du propriétaire du Lightning que tu parlais. Puis tantôt, tu parlais de Patrick Roy, que tu sais, lui, c'était un gamer, pouvait en avoir laissé passer vite, puis il arrivait après ça à la partie d'après, puis il disait « marquez-en un, je m'en occupe ». C'est parce qu'il y en a beaucoup qui le disent, mais de livrer la marchandise, les Jordan, les Roy, tu sais, il y en a bien qui marchent à dire « je vais me mettre la pression sur moi », mais tu deviens... Une idole ou un héros seulement quand tu réussis, que tu as mis cette pression-là sur toi et que tu as réussi. La quantité de joueurs qui l'ont essayé, ça, marquez-en deux, j'arrête le reste, puis ne m'a laissé passer six.
Mais il n'a pas bien. Tu sais,
c'est pas donné à tout le monde. On va ramener les gens de la télé et on va ramener également Marc Denis parce que à matin, la première question de Guy était pour Marc Denis.
On est de retour, puis si tu veux, Yann, pour ne pas faire rêver ça trop longtemps, on va entrer Marc Denis tout de suite, parce que à ben matin, oui. Guy Boucher, sa question était ses gardiens de but. Marc, salut!
Salut, Marc.
Salut, vous autres, comment ça va? Là, vous m'avez mis ses nerfs. Là, je suis nerveux un peu. Là. Si j'avais une question de Guy Boucher puis que je ne suis pas préparé, là, où ça va aller, je ne sais pas.
Ouais. Ben, c'est-tu, ben, moi, Guy... je ne connais pas, moi, non plus, sa question.
Veux-tu y aller, Guy, ou tu veux que je la résume, ta question?
Alors, vas-y, Martin.
Un matin, Guy a dit, « Hey, le gros, as-tu déjà vu ça? Des gardiens buts de même en série? J'ai jamais vu ça. Écoute, 8 buts un soir, 6 de l'autre, ça rebondit, ça revient. » Il dit, « C'est pas si c'est moi qui s'en souviens pas, mais il me semble que c'est jamais de même. » Ben, ça tombe bien, Guy. On a Marc Denis tantôt. Ouais. Tu me poseras la question.
Ben, c'est surtout aussi pour ouais. le...
Ben, faudrait...
On sait jamais, c'est, on n'est même pas certain des fois quel gardien de but va être devant le filet. La Caroline, New Jersey, la Vegas, même Edmonton. Tu m'as demandé dessus. OK, je pense, moi, en tout cas, moi, je me rappelle pas autant d'équipes danser aussi souvent avec l'incertitude puis des changements, puis ainsi de suite. Je sais pas, Marc, toi.
Non, du tout. Puis on peut peut-être remonter dans les années 80, au début des années 90, pour voir beaucoup de buts marqués. Après ça, ça a redescendu au niveau de la production offensive. Ça semble remonter. Il y a une chose qui est vraie, puis Guy, je suis sûr que tu l'as expérimenté. Le premier tour est parfois très difficile, les émotions, l'adrénaline. Et là, le niveau de talent remonte un peu à la surface à partir du deuxième tour. Donc, l'ordre des choses est rétabli. Ça, c'est vrai. Mais quand on tasse ça, moi, j'ai grandi, puis j'ai évolué à l'ère de, quand je joue contre Dallas... C'est Eddie the Eagle qui goal. Puis quand t'es à New Jersey, c'est Martin Brodeur. Puis quand tu joues contre Détroit, ben, tu sais, tu savais qui gardait les buts. C'était, tu sais, c'était pas moi qui allais garder les buts pour l'Avalanche, là. C'était Patrick. J'étais le second. C'était clair. Puis quand t'arrivais à Columbus, t'avais une bonne idée que ça allait être Marc Denis qui allait être devant le filet parce qu'il en goalait 77 par année. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est ailleurs. Moi, je pense que l'écart s'est rétréci entre les gardiens de but numéro un et les auxiliaires qui sont capables d'amener l'eau au moulin, d'amener des victoires aussi. Dans le cas de la Caroline, ce qui est exceptionnel, c'est quand tu regardes, on a des problèmes de durabilité, on a des problèmes de longévité, on a utilisé 3 gardiens pendant toute la saison et on est encore en train d'utiliser 3 gardiens. Donc, la réponse courte, c'est non, je ne me rappelle pas d'une séquence en série où c'est aussi probant. Ottinger est ce qu'il y a de plus clairement le numéro 1 depuis que Vasilevski et Hellebuck sont éliminés. Puis même Bobrovsky, qui est probablement le meilleur de ceux qui restent ou qui performent le mieux, n'a même pas amorcé les séries pour les Panthers. Fait que Guy, t'as absolument raison.
Je me disais vraiment, c'est peut-être moi qui, tu sais, je veux dire, je me rappelle pas, mais puis on sait jamais, tu sais, on parlait de maison, on parlait sa route, on parlait, ben moi il y a une affaire par exemple, puis c'est clair pour moi que un, je suis d'accord avec Marc, on a une nouvelle réalité, comme les attaquants, comme les défenseurs, c'est qu'il y a une plus grande profondeur de qualité à toutes les positions. Pourquoi? Ben parce que c'est un sport où maintenant, on a des bons joueurs partout dans le monde qui ont accès à la Ligue nationale, ce qui fait qu'à un moment donné, ta troisième ligne, ta quatrième ligne est bien meilleure qu'elle l'était avant, puis elle a plus de talent, puis ainsi de suite. Donc, c'est la même chose qui doit s'appliquer aux gardiens de but. Tu as plus de gardiens de but aptes à être performants. C'est normal, à un moment donné, la statistique rentre en ligne de compte. Mais il y a une chose que je suis convaincu maintenant, puis c'est pas juste une question de qualité de gardien de but, c'est que la nouvelle Ligue nationale, avec la permutation des défenseurs maintenant, elle rend vraiment toute la Ligue au complet. Justement, j'en parlais avec Steve Eisenman l'autre jour, par rapport à la zone défensive. Moi, je pense qu'il n'y a personne en ce moment qui a trouvé comment jouer en zone défensive sur une base constante pour être constant. Tu ne peux plus jouer juste zone comme on a joué en Amérique du Nord pendant des millénaires. Puis on ne peut pas jouer juste homme pour homme comme on joue en Europe depuis des millénaires. En ce moment, ça nous prend une forme d'hybride. Je ne pense pas que personne n'a trouvé la forme d'hybride à l'épreuve de, justement, cette volatilité-là dans les scores, dans les momentum, dans zone défensive, puis ainsi de suite. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est le gros, gros défi de tous les entraîneurs. Puis je le dis, ça fait quelques années, mais là, pour moi, c'est évident que ça fait partie d'une des raisons pourquoi qu'on voit des scores de fou comme ça. C'est pas juste une question de gardien de but, de qualité de gardien de but.
Marc, tu peux y aller pour répondre. Je vais juste ajouter un complément d'information que je parlais avec Guy un matin. Caroline joue un 100%, un des seuls qui joue 100% homme pour homme, peu importe dans la zone. Et ils se sont fait péter par New Jersey au dernier match. Moi, je suis capable de voir.
Question, c'est ce que je disais à Guy. Vas-y.
Vas-y.
Non, mais j'ai une question aussi pour Guy, puis elle est un peu à côté, mais dans le même ordre d'idée, puis ça m'intéresse, je ne vais pas te garder trop longtemps. Guy, tu n'es pas obligé de me répondre avec une longue réponse, mais moi, là, j'ai toujours eu l'impression, moi, ce qui me chicote aujourd'hui avec cette façon de faire-là, je comprends que l'utilisation en saison va t'amener plus de victoires parce que tu as un gardien frais et dispo. Mais moi, là, mes coéquipiers, mes entraîneurs de gardiens me disaient tout le temps, être un gardien, c'est arrêter les rondelles, mais être un gardien numéro un, c'est bien plus que ça. C'est l'identité de l'équipe. C'est que le défenseur, il sait, quand il donne un tir de telle place, c'est Marc qui est le gardien, là. Fait que je le sais que son retour de lancer va s'en aller sur le côté court, parce que c'est ça qu'il aime faire. Je le sais, quand il est derrière le filet, il va me parler. Mais là, on voit des entraîneurs choisir un autre gardien pour un match numéro 7. Vous n'avez pas peur, les entraîneurs, c'est juste celui qui arrête les rondelles. Vous n'avez pas peur que l'identité de l'équipe change puis que ça chamboule complètement l'ordre établi jusqu'à l'identité de l'équipe? Je sais pas, parce que pour moi, en tout cas, j'ai grandi à une ère où c'était plus important la façon dont l'équipe allait jouer que exactement le nombre d'arrêts. Je comprends qu'on avait peut-être pas, la ligne était peut-être pas aussi mince qu'aujourd'hui. Je sais pas, je te pose la question, coach.
Ouais, ben regarde, tu poses peut-être la question, mauvais gars, parce que moi, j'ai la gâchette extrêmement vite pour mes attaquants. Je l'ai un peu moins vite pour les défenseurs, puis je l'ai vraiment pas vite pour mes gardiens de but. Moi, j'aimais pas ça flipper un l'autre, là, vraiment pas. Puis exactement pour ça, c'est une des raisons. Aussi parce que ton gardien de but, une énorme partie de ça, comme n'importe quel joueur, mais encore plus pour un gardien de but, que le niveau de confiance, c'est comme tout le monde, fragile. Fait que, tu sais, si toi, en plus, tu contribues à cette fragilité-là, à un moment donné, c'est sûr que tu peux avoir de la difficulté. Mais il y a des moments, puis je l'ai fait en série, tu sais, on avait Rollison qui avait 41 ans, ma première année à Tampa. Ouais. Tu sais, il jouait correct à 905, puis il nous faisait une bonne série, mais il était au maximum de ce qu'il pouvait faire. Puis là, à un moment donné, on s'apercevait qu'à Boston, oh boy, OK, là, ils sont en train d'avoir le dessus sur lui. Et j'ai pris une chance. J'avais mis Smith dans le filet. À ce moment-là, Smith avait une année, c'était plus difficile, c'est dans ses années de formation, puis tout ça. Mais depuis, on l'avait renvoyé en ligne américaine, on l'avait remonté, puis depuis qu'il était remonté, il jouait à 940. Fait que j'avais parlé à mon gardien Rollison, je lui dis, garde, on va prendre un break pour être capable justement de te redonner du jus et tout ça, puis on va lui lancer quelque chose de différent à Boston. Puis on a perdu 2-1, c'est le seul match qu'on n'a pas scoré beaucoup de buts. Puis Smith avait été excellent. Fait que les autres matchs, on avait marqué plus de buts, puis je pense à un moment donné, c'était un match 6-5 ou 7-6, je ne me rappelle plus, là, puis Rollison, ça avait été plus dur pour lui. Mais quand tu es rendu à prendre ces décisions-là, c'est parce que tu sens là, que, oups, là, ça dérape. Là, tu penses vraiment que là t'es au bord du précipice. Fait que la vérité, la réponse, la vraie réponse, Marc, c'est oui, t'as peur comme coach. T'as peur de faire ce changement-là, mais si tu le fais, c'est parce que tu sens vraiment, vraiment là, que t'en es rendu là, puis que tu donnes vraiment une chance. Puis tu vois aussi, surtout, les réactions de tes joueurs, de tes leaders. Tu vois des commentaires. Ouais, tu vas avoir des langages corporels, tu vas même en voir qui vont venir te parler, puis tout ça, puis là, à un moment donné, tu es là, ouais, ton coach de gardien va te parler aussi, puis là, quand tu mets tout ça ensemble avec ton feeling à toi, quand tout pointe vers le changement, bien là, il faut que tu aies le guts de le faire, mais non, après ma barre, pour les gardiens de but, c'est la dernière affaire que moi, j'aime faire, ça, c'est certain.
Puis je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, c'est ce qui est beau d'On Jase, c'est organique comme question, ça venait de ton fond, Marc, puis tu posais la question au coach, puis le coach, ce matin, on parlait du homme pour homme, puis Guy disait, j'ai parlé avec plein de monde, puis tout le monde se demande comment défendre. Moi, je suis capable d'observer les choses, mais je ne serais pas capable d'amener les correctifs. Ma limite de connaissance au hockey arrête là. Je le vois, là, que homme pour homme, rendu au point de mise en jeu, souvent, il y a un switch, puis là, quand on est mêlé, bon, les brouillons, on va s'effondrer, collapser devant notre gardien de but, le temps de reprendre nos hommes. Je vois tout ça. Mais comme Guy, je vois que ça ne marche pas, mais je n'ai pas la solution. Est-ce que tu penses que ça fait partie... Puis je peux pas dire bye à Guy, mais c'est parce que Guy, vous le savez, va rester connecté puis il va écouter ta réponse anyway. Fait que, tu penses-tu que ça fait partie d'une des raisons pourquoi les gardiens se font poivrer comme ça, que pour une des premières fois dans la Ligue nationale de hockey, on ne sait pas comment défendre en zone neutre, en zone défensive?
C'est clair, je ne pense pas que la tendance des chances de grande qualité est en augmentant dans les années les plus récentes. Si on remonte à 2004, il n'y en avait pas d'occasion de grande qualité. Là. La série Calgary-Tampa, la série finale, là, le score ne pouvait pas finir autre chose que 2-1. Les chances de marquer, c'était 5-4. T'sais, c'était différent. Là, aujourd'hui, on est revenu à un niveau qui s'est quand même stabilisé. La seule chose que je dirais au niveau du travail en zone défensive, c'est que tu te bats contre la nature humaine aussi. S'il y a une permutation, puis tu es rendu à du homme pour homme, puis tu es rendu dans le haut de la zone, le réflexe immédiatement, c'est de dire « Oh, t'as peur, il faut que je protège l'enclave. » Et l'inverse, c'est vrai aussi. Si tu es en défensive de zone, tout le monde est dans le même coin, tu dis « Il faut que je me trouve un homme. » Fait que tu sais, il y a toujours ça. Moi, je pense que la confusion, le mouvement offensif incessant, là, puis le Colorado le fait à 5 joueurs, la plupart des équipes le font à 4, puis les équipes qui le font à 5 joueurs, ils créent le chaos le plus total dans leur reconnaissance. Tu sais, la reconnaissance et l'intelligence du travail en défensive est vraiment mise à mal. Puis la dernière chose que je dirais, tu sais, on a montré Jacob Slavin marquer un but derrière le filet parce qu'il s'était rendu compte que le gardien était dans une position vulnérable. À l'époque, là, pas très lointaine, là, les gars de 4e trio et les 5e, 6e défenseurs, ils essayaient même pas de marquer. Ils n'avaient pas la capacité de le faire. Je l'aime, là, Jody Shelley, c'est un de mes amis, puis j'aime Jean-Luc Grandpierre, mais ils essayaient pas de marquer des buts, eux autres. C'était pas ça, non, leur travail. L'Ilo de Line, genre, ils essayaient même pas, exactement. Alors qu'aujourd'hui, même les joueurs à caractère défensif ont toutes les habiletés nécessaires pour tirer avantage d'une porte ouverte, autant dans la défensive de zone que dans une lacune de positionnement d'un gardien de but. Fait qu'il y a, il y a ce concept-là aussi qui aide grandement à ce que l'attaque profite des erreurs.
Et ça s'appelle l'évolution du hockey. C'est comme ça qu'on peut définir ça dans un terme très large. OK, go. Coach, veux-tu réagir avant qu'on te dise bye? Parce que d'après moi, tu as l'air d'un gars qui veut réagir. Là. Vas-y.
Non, non, c'est juste que l'ajout de ça, c'est le changement des règlements. Fait aussi que c'est pas juste une question de système. C'est une question que tu n'as plus les outils, tu n'as plus le droit d'accrocher, tu n'as plus le droit de donner des coups comme avant, tu n'as plus le droit de double échecs devant le filet, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, même si tu as le bon système, qui était à la bonne place, ben, t'as plus le droit d'utiliser les outils pour défendre comme avant. Fait que ça aussi, ça contribue à plus d'offensives, évidemment.
OK. Ben Guy, là-dessus, on va te dire un gros merci. On va te souhaiter un bel été. On va te retrouver une fois ou deux durant la semaine du repêchage. Mais d'ici à ce temps-là, repose-toi, mon cher ami, et c'est toujours un plaisir, Guy.
Ben c'est bon. Ben merci à tout le monde. Et merci là, à tous les gens qui écoutent parce qu'on entend tellement de commentaires. Les gens adorent ce show-là. C'est justement, évidemment, Yannick, Martin et du monde comme Marc qui font que c'est extraordinaire. Fait que bon été à tout le monde.
Salut,
merci
Guy.
Merci à toi, Guy. Salut, Guy. Tu fais partie de ça.
Guy Boucher, qui est un membre important de notre équipe. Marc, tu as plusieurs sujets, mais je vais en parler immédiatement. On a parlé au début, là, puis c'est le fun, parce que ça a pris une tangente qui n'était pas prévue, puis c'est toujours agréable.
C'est ça,
mais on a parlé ensemble ce matin un peu de la loterie du repêchage. On a parlé en début de show. Mais la question qui est sur toutes les lèvres, puis je sais que Stéphane Leroux en a parlé un petit peu hier là, sur les différentes plateformes à RDS, qu'est-ce que le Canadien va faire si au 5e rang, les 4 gars qui sont supposés de sortir sortent et que là, Michkov est disponible? Marc Denis en pense quoi? Parce que c'est un gamble, là. C'est vraiment un gamble. Ouais.
Je vais vous donner mon opinion personnelle, puis après ça, je vais vous donner un peu l'arrière-scène quand tu fais partie d'une organisation. Parce que j'ai fait partie de ce genre de processus décisionnel-là pendant 7 ans dans le hockey junior majeur, puis un repêchage, ça se ressemble beaucoup. Il y a des joueurs européens, il y a des joueurs des Maritimes, peu importe. Et aussi, parce que je connais assez de monde que j'ai parlé à plusieurs organisations, et toutes les organisations, c'est pas vrai qu'elles fonctionnent toutes de la même manière. Voici ce que je vais dire. Puis là, les 4 gars que tu parles, là, on peut les donner là, pour les gens, là, c'est pas compliqué. Si Bédard sort 1, Fantilli 2, Carlson et Will Smith sortent 3 et 4 et Michkov est disponible. Est-ce que le Canadien y va pour Michkov ou est-ce que le Canadien y va pour, je vais dire, l'autre tiers, là, mais c'est pas vrai parce qu'il pourrait être des joueurs d'impact également, là, mais ceux qu'on évalue pour l'instant comme étant les autres, là, on parle, puis je ne mettrai pas de défenseur dans l'eau parce que je pense pas que le Canadien va aller là on parle, disons, de Benson, de Vorsky puis de Leonard. Mettons qu'on met juste ces 3-là puis il y en a peut-être d'autres.
Exact.
Donc, c'est un peu la question que tu me poses. Là, je viens de vous donner... Puis encore là, je vais servir mon avertissement annuel, OK? Je ne sais pas. Écoute, il y en a là qui ont... Ils doivent avoir un passeport suisse complètement neutre et international parce qu'il y en a qui ont voyagé puis qui ont vu ces gars-là jouer beaucoup. Si on suit aux réseaux sociaux puis à quel point on est rendu avec plein d'experts du repêchage. Avec de la vidéo, c'est impossible d'avoir toutes les réponses. Parce que quand un vrai recruteur, dépisteur est sur place... et qu'il focalise sur un joueur, très souvent, il va avoir autant, sinon plus, d'infos lors de son retour au banc. Après une erreur, l'interaction avec l'entraîneur, le non-verbal, à quel point il est leader, comment il saute sur la patinoire entre ses présences, à quel point il veut être impliqué lorsqu'il est loin de la rondelle. Toutes des choses que même avec l'intelligence artificielle, puis on y reviendra pas, là, mais on l'a expliqué déjà, là, l'intelligence artificielle et la vidéo qui est disponible, qui est de bien meilleure et de bien plus grande qualité qu'elle ne l'était il n'y a pas si longtemps, juste avant la pandémie. Bien, malgré tout ça, là, c'est pas vrai qu'avec 18 minutes de fait saillant pendant une saison au complet, vous connaissez un joueur puis vous dites qu'il faut le repêcher. OK? Là, mon avertissement il est servi, c'est terminé. Je vous ajouterais même que moi, je pense que je suis bon pour analyser ce que j'ai devant moi, mais pas bon pour projeter ce qu'un joueur va être dans 2-3 ans. Bon, d'accord, j'ai regardé le championnat des moins de 18 ans, à peu près tous les matchs des Américains, des Canadiens, entre autres. Puis c'est clair que Smith, Leonard puis Perrault, ils vont être bons, tu le vois tout de suite. Ils ont surtout connu un grand tournoi. Dvorsky est un joueur très intelligent. Puis moi, ce que j'avais entendu dire, là, qu'il n'y avait peut-être pas tant d'offensives que ça, je ne l'ai pas vu. Parce que contre des gars de son âge, moins de 18 ans, en tout cas, il y en avait beaucoup d'offensives. On revient à la question, deux affaires. Moi, personnellement, s'il y a un drapeau rouge, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il sera bon ailleurs. Puis ça n'a rien à voir avec ces Michkov, là. Puis ça n'a rien à... Dites-moi pas si son nom, c'était Mitch Mitchell, là. Si son nom, c'était Mitch Mitchell, puis j'avais les drapeaux rouges, je dirais la même affaire. J'ai dit la même affaire avec Logan Mayo avant qu'il soit repêché. Une fois qu'il est repêché, c'est une autre histoire. Avant qu'il soit repêché, et maintenant, c'est là où je vous dis, là, je vous ai donné mon opinion personnelle, je ne le prendrai pas, je vous ai donné le contexte, puis là, je vais vous dire comment les organisations fonctionnent. Il y a des organisations qui disent, faites-vous-en pas avec ça. Vous, les recruteurs, si vous croyez que c'est le meilleur joueur disponible, on le repêche. Puis il y en a d'autres qui disent, parfait, avec tout le respect que je dois, je comprends que c'est le meilleur joueur, mais pour nous, il est barré de la liste, on ne le repêchera pas, même s'il est rendu en septième ronde. Terminé. Logan Mayo, terminé. Un autre, terminé. Il y a un drapeau rouge, terminé. Peu importe, là. C'est pas toutes les organisations. Les organisations qui veulent pas rayer aucun nom. Donc, voilà comment ça fonctionne. Puis voilà, moi, comment je crois qu'il faut que tu sois conséquent. Les bottines suivent les babines, là, je le dis souvent, bien, c'est ça. T'es conséquent. Fait que si toi, dans tes valeurs, un drapeau rouge, là, je vous parle pas de Michkov, je parle d'un joueur général, un drapeau rouge, quel qu'il soit, va à l'encontre de tes valeurs, j'aime mieux me faire battre par un gars que j'ai pas repêché qui cadre pas dans mes valeurs, puis je vais essayer de développer celui qui cadre dans mes valeurs. Le prochain, je prendrai pas le 24e sur ma liste, là. Je vais prendre celui qui est disponible. Mais j'irai pas à l'encontre de mes valeurs. Donc, si le Canadien veut un joueur qui s'en vient d'Amérique du Nord tout de suite, veut pas attendre jusqu'en 2026, bien, que ce soit Michkov ou qu'il s'appelle Tom Tremblay, bien, je le prends pas, puis c'est tout. Il est rayé de ma liste. Ça finit là. Si je veux pas qu'un gars avec un casier judiciaire ou qui a eu des démêlés, bien, Logan Mayo, je le prends pas, puis c'est tout. Qui s'appelle Logan Mayo ou Mayoff ou Tremblay. Tu sais, ça, peu importe, là. On oublie le nom. Non, ouais, mais c'est pour fait. Prendre l'exemple Mayoff, de Michkov puis de Mayo.
Je trouvais très bon, Mayoff.
Je trouvais ça dur de le résumer, mais là, je trouve que c'est quand même pas pire. Je l'ai fait en 4-5 minutes.
Très
là.
Bien fait.
C'est un peu
très
ça.
Très bien fait.
Mais c'est très bien fait. Mais c'est pour ça que c'est plus complexe
mais toi,
que juste de régler
dans tes
ça,
valeurs
là.
À toi, ouais, tu le prendrais-tu si on dit que c'est le deuxième plus talentueux, même devant Fantilli, dans tes valeurs à toi?
Bien, je sais pas.
Parce que...
OK, bien, gars, Nick Bobrov a apparemment beaucoup de bons liens avec l'équipe de la KHL de Michkov et cette organisation-là. A probablement plus d'informations sur la mort du père de Michkov et sur ce qu'est devenu Matvei Michkov au sein de son équipe et de son collectif pendant les deux dernières années. Parce que moi, je ne l'ai pas vu jouer sur la scène internationale. Puis la KHL, c'est une ligue très difficile à faire des projections. Donc, ouais. On a vu des gardiens de but de 950 qui ne sont pas capables de jouer dans la Ligue américaine ici. Tu sais, il faut faire attention. Là. Donc, moi, je ne les ai pas les réponses. Je ne le sais pas. Je le sais pas, mais clairement, il y a un contrat jusqu'en 2026 dont il apparaît qu'il va être très difficile de se défaire. Et il a un talent, assez exceptionnel. Donc, ça, c'est les informations que j'ai, mais je les ai pas, moi, les informations des valeurs. Puis il n'y a personne qui va les avoir. Personne sur les réseaux sociaux va les avoir, là. Ils ne nous les donnent pas, là. Tu sais, des fois, là, on pouvait faire une entrevue avec un jeune dans les rangs juniors majeurs, puis on apprenait des informations sur la situation familiale que personne d'autre ne va jamais savoir, là. Puis que personne d'autre a besoin de savoir. Ça va juste nous aider à prendre notre décision. Tu n'es pas obligé de la justifier devant les gens. Donc, ça, c'est important aussi.
Tu amènes un bon point à propos de Bobrov qui est avec le Canadien. Parce que là, tu vois, Mathieu nous donne l'information que Bobrov a été directeur du recrutement du SKA Saint-Pétersbourg de 2011 à 2014. Donc, il y a quand même des liens très serrés avec cette organisation-là.
Exact.
Tu sais... Il n'y a pas une personne mieux placée que lui, je pense, pour guider la décision du Canadien. Mais comme tu as dit, Marc, si c'est pas dans les valeurs, quoi que le Canadien l'ont fait avec Mayo, mais c'était pas le même staff. T'sais, ça a changé. Là. C'était la gang à Marc Bergevin. Là, c'est la gang à Gorton puis Hughes. Donc, on peut pas nécessairement faire de comparatif. Est-ce que le Canadien veut se rembarquer là-dedans? Pas sûr. T'sais, je ne sais pas. Et pour vrai, là, on va avoir la réponse le 28 juin. Là.
Mais oui, puis vous savez, il y a peut-être que tous les signes pointent d'un côté positif. Moi, la mise en garde que je fais, c'est attention, attendons. Il y a plein d'informations de loin autres que ce que vous allez voir circuler sur les réseaux sociaux des 6 buts qu'il a marqués dans ses 7 derniers matchs ou du tournoi. À l'inverse, un gars comme Dvorsky qui part de plus loin, que certains commencent à aimer de plus en plus, bien, il y a d'autres choses que juste son moins de 18 ans. Il y a quand il a joué en Suède, ouais, il y a plein d'informations. C'est pour ça. Écoute, j'ai d'anciens coéquipiers là, que je respecte énormément, qui étaient super intelligents, qui avaient 3 fois l'intelligence d'analyse au hockey que je pouvais avoir quand je jouais avec eux autres, mais qui n'ont pas été capables d'être recruteurs non plus et qui sont devenus d'excellents recruteurs professionnels, mais pas des bons recruteurs amateurs. Pourquoi? Parce que les recruteurs professionnels, ils voient des joueurs à maturité, sont capables d'analyser leur jeu, alors que des recruteurs amateurs doivent voir un joueur dans différents calibres et le projeter dans la Ligue nationale dans 3 ans. Alors que le recruteur professionnel, il voit dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine. Il est rendu, exact, il joue dans un calibre. Il joue dans la Ligue nationale, tu le vois 10 fois, puis tu sais ce qu'il y a. C'est un gars de 25 ans, puis là, tu recommandes à ton équipe de faire une transaction pour lui ou pas, ou de le signer ou pas. Alors que le recruteur amateur, lui, bien, Mitchkov, c'est vraiment pas un bon exemple parce qu'on l'a pas vu cette année, mais prenons Dvorsky, bien, il est allé voir Dvorsky dans des compétitions internationales contre des gars de son calibre, de son âge. Il est allé le voir contre des gars professionnels dans la Ligue de Suède. Tu l'as vu dans 2-3 calibres différents, différents moments dans la saison, et là, tu le projettes dans 2-3 ans quand il va s'en venir en Amérique du Nord. Ça, c'est moi, là, je vous le dis, je suis pas bon. Je suis pas bon pour faire ça. On posait les bonnes questions aux dépisteurs qui, eux, sont excellents. Mais moi, j'ai bien de la difficulté à voir des joueurs jouer dans des calibres différents puis les projeter 2-3 saisons plus tard.
Et les dépisteurs sont excellents et qui, eux, c'est leur job et ils se trompent. Donc, d'avoir des certitudes sur les réseaux sociaux, comme dis...
Mais ça, Martin, dans le monde du sport, on se trompe tous. Là. Je me trompe à tous les soirs qu'un match du Canadien. Là. Tu sais, je me trompe ou je manque quelque chose. Là, c'est inévitable, ça va trop vite. On est en direct, on n'a pas de script, on n'a pas de scénario. Tu sais, on travaille sans filet pour faire de mauvais jeux de mots. Fait que, tu sais, on se trompe à tous les soirs. Là. Ça, c'est normal, c'est un sport. C'est ça qui fait la beauté du sport. Si c'était facile, on vous dirait le champion de la Coupe Stanley.
Bon, Marc, ben oui, c'est ça. Puis Dieu sait que...
Les méchants gangs se sont trompés cette année.
Solide.
Déjà, oui.
Solide. Ouais. Puis ça continue, là. Si ça continue de même, là, je t'avais de rentrer en dessous du bureau. Les gens venez nous rejoindre sur le web. Écoutez, on a fait un sujet de Mardini. On a encore beaucoup de choses à jaser puis de plaisir à avoir. Message 1 d'un auditeur qui m'a rejoint, Yannick Turgeon, qui dit « Martin, demain, le film Draft Day joue. » Alors, il m'a même envoyé le poste à laquelle Draft Day va jouer. Et message de ma maman, c'est sûrement dirigé vers toi, Marc. Salutations spéciales pour tous ceux qui sont présents pour leur dernière de la saison. Profitez de l'été et au plaisir de vous revoir à l'automne, signé la maman de Martin. Tu vois, ma mère, elle t'aime.
Fantastique. Merci beaucoup, maman de Martin.
Bon. On poursuit du côté du web. Vous avez vu le code QR. Venez nous rejoindre. Ça se poursuit. Ma mère va être contente. Marc, je sais que c'est pas dans les sujets, mais je vais faire un petit aparté vite. J'ai demandé à Yannick voir si c'était possible de t'en parler, puis il m'a dit oui, pas de trouble. Puis t'as pas besoin de Martin Lemay pour te défendre. T'as donné une entrevue à Éric Leblanc de RDS.ca. T'as parlé de ton... Puis je vais paraphraser, tu donneras toi-même les mots exacts que, à la vitesse que ça va, c'est pas à ton goût. Puis il y en a des gens très crédibles, comme Martin Leclerc, qui disent « Mais ces choses-là prennent du temps à instaurer. » Puis moi, j'ai répondu à ça, je dis « Marc Denis n'a pas besoin de Martin Lemay pour le défendre. » Mais quand tu mets des choses de côté, comme sa participation au Saguenay, puis tu mets ton cœur dans quelque chose, puis il le dit en point de presse, qu'il ne voulait pas que ça soit tabletté, moi, je le comprends, Marc Denis. Puis j'ai expliqué pourquoi. Je sais que tu n'as pas besoin de moi pour te défendre, mais je suis allé de ce côté-là. Si tu veux y aller avec ta version des faits.
Bien, écoute, Martin, je l'apprécie, mais en même temps... je suis pas toujours d'accord avec certaines des prises de position de Martin Leclerc, mais s'il a dit ça, il a absolument raison. Certaines des choses les plus importantes prennent du temps, ils vont prendre beaucoup de temps. Si on veut que nos jeunes bougent, là on parle de la pérennité et de la perpétuité de ce rapport-là, mais du niveau d'activité de nos jeunes pour qu'ils continuent à faire du sport, passer le primaire et le secondaire, qu'on leur donne donc un langage athlétique à un jeune âge et qu'on enseigne le patin ou la natation, par exemple, à l'école primaire, ça va prendre énormément de temps parce qu'il va falloir que tout le monde soit à bord. Un peu comme on le fait à Saint-Féréol-les-Neiges puis qu'on enseigne le ski de fond, un peu comme on le fait en Norvège ou en Australie. En Norvège, c'est le ski de fond, en Australie, c'est la natation. Là-dessus, Martin a amplement raison, puis je vais être énormément patient, très patient même. Mais en même temps, il y a des choses dans notre rapport, là, puis je sais que c'est ce à quoi tu fais allusion. Il y a des choses dans notre rapport qui coûtent zéro puis qui se font demain. Moi, je suis une association de hockey mineur, je ne sais pas de quoi j'ai peur, mais moi, je vous le dis tout de suite. J'enlève immédiatement les statistiques dans le M13, puis il va y avoir plus de pratiques que de matchs. Puis si vous n'êtes pas content, je comprends qu'on va perdre des gens, mais nous autres, on le sait, puis ça a été prouvé scientifiquement, parce que désormais, c'est possible, que ça crée plus de plaisir à long terme, puis que l'adhésion à long terme, ça va être gagnant. Puis il y a des choses que le gouvernement peut faire aussi qui ne coûtent pas grand-chose. La règle de sécurité pour empêcher les réfractaires, la façon d'investir dans la sécurité dans notre sport, de donner la légitimité à Hockey Québec, ça, c'est des affaires qui ne prennent pas tant de temps que ça. Mais c'est sûr que si on ne veut pas froisser personne ou faire une omelette sans casser les œufs, bien, c'est difficile. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on nous a demandé. Puis quand, Madame la ministre, en passant, oui, il y a eu des réactions, puis on va se rencontrer très bientôt, là. C'est déjà à l'agenda. Mais la réalité, là, c'est que quand la ministre dit qu'il n'y a pas juste le hockey, moi, je réponds absolument, puis j'ai parlé à plein de gens d'autres sports. Puis vous savez quoi? Mais si le hockey n'est pas capable, avec son rapport, d'être un leader puis d'avoir des actions concrètes rapidement, les autres sports ne réussiront pas non plus. Donc, on va tous le faire ensemble. Mais nous autres, on nous a demandé de faire un rapport sur le hockey. On l'a fait. Puis les 17 personnes qui l'ont signé, dont j'étais le président, puis ça, j'étais choyé, là, c'est juste un titre, bien, eux autres, ils ne veulent pas que ça soit tabletté. Fait que moi, mon rôle, là, ad vitam aeternam, pendant le reste de mes jours, c'est de défendre ce rapport-là puis de dire qu'il ne restera pas sur une tablette. Fait qu'au pire, aller, si je me suis trompé puis que c'est pas vrai puis qu'il y a des affaires qui se font en coulisses, tant mieux. Mais garde, ça a fait bouger les choses depuis à peu près 4-5 jours depuis qu'on en a parlé. Fait que je le sais, puis j'en ai parlé, puis on en parle fréquemment avec Yannick. Tu sais, quand j'ai dit que la Ligue M18-3 aussi devait s'impliquer, Yannick, il le sait, là. C'est pas un secret, là. Puis j'avais parlé avec Martin Lavallée, de la Ligue junior majeure du Québec, puis j'ai parlé à Stéphane Auger du collégial. Fait que quand je dis ça, je le dis pas dans d'autres personnes, là. Tout le monde le savait, là. J'ai pas, tu sais, peut-être que ça a surpris parce que j'ai pas annoncé à tout le monde que ça faisait un an, puis que là, il allait avoir des articles là-dessus, parce qu'il y en a eu dans la coopérative des journaux, la coopérative d'information, il y en a eu dans RDS.ca, il y a certains autres médias qui l'ont repris. Mais je travaille pas dans d'autres personnes. Moi, je travaille pour les jeunes et pour le hockey. That's it.
Moi, je confirme, Marc, que c'était très bien fait. Puis c'est vrai, okay, on s'en parle souvent, là. Mais ça a été bien fait, puis c'était nécessaire. Parce que j'étais un de ceux qui disaient l'hiver dernier, « Coudon, on n'entend plus parler, il se passe rien. » Puis moi aussi, je ne l'ai pas fait ouvertement dans les médias parce que c'était pas mon rôle, c'était celui de Marc. Mais à l'intérieur, au sein des différentes organisations, que ce soit dans ma ligue ou ailleurs, puis avec la GMQ, entre autres, on en a parlé, puis avec Jocelyn Thibault Hockey Québec, fallait que ça bouge, puis là, ça va bouger. Puis nous, on a déjà entamé un processus au Média 3A depuis déjà quelques temps, depuis la sortie du rapport, puis ça va se poursuivre nous aussi. On a un agenda planifié là, pour évaluer et changer des choses. On a commencé à le faire un peu cette année, pas mal à part ça. Donc, c'est bon signe. Puis j'étais content, Marc, que tu me confirmes aussi qu'il y avait une rencontre là, bientôt avec Mme la ministre Charest pour faire avancer les choses, puis c'est correct.
Puis à ce niveau-là, Yannick Martin, la seule chose que je vais vous dire, là, c'est tout ce que je vais en dire, parce que c'est correct. Moi, je veux aussi passer, et surtout passer par les canaux officiels, parce que c'est cette façon-là que ça va avancer. Ça faisait un an, puis il y a plusieurs membres des médias qui ont ça à cœur aussi, le hockey, parce que c'est une passion qu'on a tous. Fait que moi, j'ai répondu aux questions, parce que je me cache pas, là, vous le savez, là, je ne suis pas super dur à rejoindre, puis quand vous voulez mon opinion, vous allez l'avoir, là, c'est un peu ça. Mais en même temps, oui, il y a quelque chose. Oui, ça fait bouger les choses. Oui, il va y avoir des rencontres avec les bonnes personnes. On va passer par les bons canaux, puis on va espérer que ça va avancer dans le bon sens. Et, écoute, puis Martin Leclerc, je lui dis souvent, on n'a pas la même opinion, mais c'est un homme que je respecte énormément parce que lui, il n'hésite pas d'écrire sur ces sujets-là, sur le hockey mineur. Vont vouloir faire, puis donner exact l'espace. Puis même si on n'a pas la même opinion, je respecte énormément ce qu'il a dit, puis il a raison. Parce que pour que les grands changements s'opèrent, ça va prendre du temps. Parfait. Ça a pris du temps en Scandinavie, ça va prendre du temps chez nous aussi. Puis, mais il y a des. Pour qu'à terme, ça bouge, bien, il faut que ça commence aussi aujourd'hui. Si on veut pas que ça prenne trop de temps non plus. Fait que c'est ça. Mais c'est sûr que c'est une passion pour moi, là, vous le voyez tout de suite. Là, puis
autant je ne voulais pas défendre, je ne veux pas plus défendre Martin, Je pense que vous ramenez dans le même bar. Il est très content pour le rapport, etc. Il essayait peut-être juste de... Puis je veux pas être pris dans le téléphone arabe, puis qu'est-ce que Martin a dit, puis qu'il a pas dit. Je pense qu'il est de ton côté. Je pense que c'est un allié, puis etc.
Hey, tu sais, à la fin de la journée, là, le chemin emprunté, c'est la destination. Puis la destination, là, c'est les jeunes et le sport. C'est ça, là. Tu sais, il faut pas avoir la couverte à tirer de notre bord. Puis on veut aider notre sport et les jeunes. Puis après ça, là, collatéralement, il va y avoir plein de bénéfices. Il va y avoir plus de jeunes joueurs de hockey, plus de jeunes joueuses de hockey. On va garder nos cerveaux et nos talents ici. Et oui, éventuellement, il va y en avoir plus qui vont atteindre les hauts niveaux. Mais ça prend plus d'offres universitaires, ça prend que nos jeunes restent au hockey plus longtemps, qu'on les développe un peu plus tard, qu'on leur donne la chance de se développer ici, chez nous, avec notre argent, puis qu'après ça, ils soient en mesure de jouer au hockey professionnel, si c'est ça, ou qu'ils fassent d'excellents citoyens, comme la plupart des joueurs qui passent par notre hockey mineur à grandeur du Québec.
Quelle belle façon de terminer ça aujourd'hui, mon Marc. C'est très intéressant. Un gros merci pour ton implication et un gros merci pour ta participation à On Jase tout au long de l'année. Nous, on va se reparler à l'automne. T'en vas en congé au mois de juin, là, puis bien mérité, puis ça va être bien le fun. On va te retrouver avec nous en septembre.
Je fais ça bien vite, mais je lance les invitations quand même. Championnat du monde commence vendredi. Pierre, moi, Normand, Michel Lacroix, on est là, toute une gang. On vous accompagne pour tout championnat du monde. Jusqu'au 28. Après ça, je prends une petite pause. Je vais être là pour le 1er juillet. Sinon, merci beaucoup, parce que c'est vrai ce que Guy disait. On en entend parler à tous les jours de nos interventions à On Jase. Puis ça, c'est grâce à vous deux, entre autres. Puis c'est grâce aux auditeurs et aux téléspectateurs.
Bien, merci, Marc. Grâce bon été.
Puis grâce aux intervenants. Bon été, Marc. Bonsoir.
Salut.
Bye.
Salut. Allons-y avec Martin à ce moment-ci, comme à l'habitude, de nos étoiles du jour.
La troisième étoile, the third star, de Facebook RDS, Éric Martel.
La deuxième étoile, the second star de YouTube, Jean Maurice.
Et la première étoile, the first star, tu sais quand on dit un vétéran, là, un vétéran, de RDS.ca, Jean-Luc Pigeon. Pigeon!
Alors, un gros merci à Guy Boucher et à Marc Denis qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à toute notre équipe de production en régie à RDS, l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles, Mathieu Bédard aux médias sociaux, Valérie Gautran en réalisation et mise en onde. Et à vous tous les jaseux, un énorme merci de nous suivre. Demain à l'émission, Bruno Gervais et Stéphane White.
C'est comme si je venais de réaliser qu'on avait nous aussi un Bédard, mais c'était Mathieu Bédard et non pas Connor Bédard avec nous autres. C'est un peu ça.
C'est un peu ça, genre, un choix de première ronde.
Ouais, tu fais bien de le dire. C'est la courroie de transmission entre vous et nous. Mathieu fait un travail incroyable. Il fait non seulement, entre guillemets, ce qu'il doit faire, il fait plus. C'est un gars qui compte pas le travail. Donc, on l'apprécie beaucoup. Puis on ne dit pas assez souvent, Mathieu, un gros merci d'avoir été là toute l'année. Il va finir également la semaine avec nous. Salutations aux jaseux. Puis, savez-vous quoi, aujourd'hui, c'était une émission typique d'On Jase. On avait des sujets. On a touché aux sujets les plus importants qui étaient Connor Bédard, un peu les séries, etc. Mais on est parti là parce que Marc avait envie de parler de quelque chose, parce que Guy avait une question pour Marc. Guy. Puis c'est ça, On Jase. Puis j'espère que vous avez apprécié le format. Salut à toi, mon chum. Salut surtout aux jaseux. Salutations à vos mères, à vos enfants. On se parle demain.